Retour sur le bolide. Je crois avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle dans l'introduction. C'est avant tout ma version d'une histoire qu'on peut entendre raconter dans pratiquement n'importe quel patelin. Et, comme une nouvelle plus ancienne, The Woman in the Room dans Night Shift, c'est une tentative pour parler de ce que j'ai ressenti alors que la mort s'approchait de ma mère. Il arrive un moment, dans la plupart des vies, où l'on doit faire face à la mort de ses proches, où elle devient une réalité, ce qui évoque évidemment notre propre disparition. C'est probablement là le seul grand thème de la fiction d'épouvante. Notre besoin d'encaisser le choc devant un mystère que l'on ne peut comprendre qu'avec l'aide d'une imagination optimiste. Je n'ai jamais raconté cette histoire, et je n'aurais jamais pensé que je la raconterais un jour. Non pas par crainte de ne pas être crue, pas exactement, mais parce qu'elle me faisait honte, et qu'elle m'était arrivée, à moi. J'avais le sentiment qu'en la révélant, je la discréditerais et me discréditerais moi-même, que je la rendrais médiocre, plus terre à terre, que je la réduirais, en fin de compte, à l'une de ces histoires de fantômes que les chefs scouts aiment à raconter à leurs louveteaux le soir avant l'extinction des feux. Je crois que je craignais aussi que la raconter, c'est-à-dire l'entendre dévider à haute voix, la rende moins crédible à mes propres oreilles. Mais depuis la mort de ma mère, je ne dors plus très bien. Mes somnolences sont entrecoupées de brusques sursauts qui me laissent parfaitement réveillé, tout tremblant. Garder la lampe de chevet allumée m'aide certes un peu, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Les ombres se multiplient aussi avec la tombée du jour. Vous n'avez pas remarqué ? Même avec la lumière allumée, il y a beaucoup d'ombres et on se dit que les plus longues pourraient être celles de n'importe quoi. D'absolument n'importe quoi. J'étais en première année à l'université du Maine lorsque Mrs. McCurdy m'a appelé pour maman. J'étais beaucoup trop jeune à la mort de mon père pour me souvenir de lui et je m'étais retrouvé enfant unique. Alan et Jean Parker contre le reste du monde, autrement dit. Mrs. McCurdy, une voisine, appela à l'appartement que je partageais avec trois autres types. Elle avait trouvé le numéro de téléphone sur le pense-bête magnétique que maman gardait sur la porte de son frigo. « Une attaque !» m'expliqua-t-elle avec son accent yankee traînant. « C'est arrivé au restaurant. Mais va pas te mettre dans tous tes états, mon gars. D'après les toubibs, c'est pas bien grave. Elle s'est réveillée et elle parle. » « Ouais, mais est-ce que ce qu'elle raconte tient debout ?» Je m'efforçais de paraître calme. Mais mon cœur battait à tout rompre et j'eus soudain l'impression qu'il faisait trop chaud dans la pièce. C'était un mercredi et tous mes colocs avaient cours. « Oh, pour sûr ! Elle a même commencé par demander qu'on te prévienne, mais sans te faire peur. C'est drôlement attentionné de sa part, non ? Ouais. » Mais bien entendu, j'avais peur. Quand on vous appelle pour vous dire que votre mère a eu une attaque sur son lieu de travail et qu'on l'a amenée à l'hôpital en ambulance, peut-on faire autrement qu'avoir peur ? Elle te fait dire de rester là-bas et de continuer à étudier jusqu'au week-end, que tu pourras revenir à ce moment-là si tu n'as pas trop de travail à faire. « Tu parles, me dis-je, cours toujours, sûr que je vais rester planqué dans cet appart pourri qui pue la bière pendant que ma mère est sur son lit d'hôpital à plus de 150 bornes d'ici, peut-être en train de mourir ?»« Elle est encore jeune, ta maman, » reprit Mrs. McCurdy. « C'est simplement qu'elle a pris fichtrement trop de poids ces derniers temps et qu'elle fait de l'hypertension. » « Sans parler des cigarettes. Va falloir qu'elle arrête de fumer. » Ça, j'en doutais. Et là-dessus, je ne me trompais pas. Attaque ou pas, ma mère aimait trop ses cigarettes. Je remerciais Mrs. McCurdy d'avoir appelé. « C'est la première chose que j'ai faite en rentrant à la maison. Alors, quand tu arrives, Alan, samedi ?» À son intonation, il était clair qu'elle n'y croyait pas elle-même. Au-delà de la fenêtre, c'était un après-midi parfait d'octobre. Un ciel typique de Nouvelle-Angleterre, d'un bleu éclatant au-dessus des arbres qui, chaque fois qu'ils s'ébrouaient, laissaient tomber leurs feuilles jaunes sur Mill Street. Je quittais la fenêtre des yeux et consultais ma montre. 3h20. J'étais sur le point de partir pour un séminaire de philo lorsque le téléphone avait sonné. « Vous plaisantez ? Je serai à la maison ce soir. » Elle eut un petit rire sec légèrement enroué sur les bords. Elle était bien placée pour parler d'arrêter de fumer, elle et ses chers Winston. « T'es un bon gars, Alan. Je suppose que tu passeras d'abord par l'hôpital ?»« Ouais, bien sûr, » répondis-je. Il ne servait à rien d'expliquer à Mrs. McCurdy que ma vieille caisse avait des problèmes de transmission et qu'elle n'irait pas plus loin que le fond du garage, du moins dans un avenir prévisible. J'envisageais d'aller en stop jusqu'à Lewiston, puis de la même manière jusqu'à notre petite maison de Harlow, s'il n'était pas trop tard. Sinon, je piquerais un roupillon dans la salle d'attente de l'hôpital. Ce ne serait pas la première fois que je rentrerais à la maison en levant le pouce, ou que je dormirais la tête appuyée contre un distributeur de Coca-Cola d'ailleurs. « Je vais vérifier que la clé est bien sous la brouette rouge, » dit-elle. « Tu vois ce que je veux dire, hein ?»« Bien sûr. » Ma mère aimait bien cette vieille brouette qu'elle gardait près de la porte de la remise. L'été, elle débordait de fleurs. Pour je ne sais quelle raison, son évocation me fit prendre conscience de toute la réalité de cette nouvelle que Mrs. McCurdy venait de m'annoncer, à savoir que ma mère était à l'hôpital. Qu'aucune lumière ne s'allumerait ce soir dans la petite maison de Harlow où j'avais grandi. Il n'y aurait personne pour appuyer sur l'interrupteur. Quant à Mrs. McCurdy, elle pouvait bien dire que maman était encore jeune. Quand on a soi-même 21 ans, 48 ans, ça paraît vieux. « Sois prudent, Alan. Pas la peine de foncer comme un fou. » Ma vitesse allait dépendre, bien entendu, de qui voudrait bien m'embarquer dans son véhicule. J'espérais justement qu'il foncerait à fond les manettes. De mon point de vue, jamais je ne pourrais me rendre assez vite au Central Maine Medical Center. Cependant, il était inutile d'inquiéter Mrs. McCurdy pour rien. « Promis. Et merci encore. Pas de problème. Tu vas voir, ta mère va très bien s'en sortir. Et qu'est-ce qu'elle va être contente de te voir !» Je raccrochais, puis griffonnais un mot où j'expliquais ce qui s'était passé et où j'allais. Je demandais à Hector Passmore, le plus sérieux de mes colocs, d'appeler mon professeur principal et de demander à celui-ci d'informer tous mes autres profs. Je ne tenais pas à me faire saquer pour absence, comportement qui déplaisait fort à deux ou trois d'entre eux. Je fourrais quelques vêtements de rechange dans mon sac à dos, y ajoutais mon « Introduction to Philosophy », dont les pages étaient déjà toutes cornées, et décampais. J'allais laisser tomber ce cours dès la semaine suivante, en dépit des bonnes notes que j'obtenais. La manière dont je voyais le monde devait changer et même radicalement ce soir-là. Et rien dans mon manuel de philosophie ne paraissait avoir de rapport avec ce changement. J'en suis venu à comprendre qu'il y a des choses en dessous des choses, oui, en dessous, et qu'aucun livre ne peut expliquer ce qu'elles sont. Je pense que parfois, le mieux est encore d'oublier que ces choses sont là. Si on peut. Un peu moins de 200 kilomètres séparent l'université du Maine à Orono de Lewiston, dans le comté d'Androscoggin. Et le meilleur moyen de s'y rendre est d'emprunter l'autoroute 95. Cependant, il vaut mieux éviter l'autoroute quand il s'agit de faire du stop. La police de la route a tendance à vous virer si vous vous faites repérer. Le simple fait de se tenir sur les rampes d'accès suffit à se faire éjecter. Et si jamais le même flic vous y prend une deuxième fois, vous avez toutes les chances de recevoir un PV en prime. Je pris donc la route 68, qui serpente en direction du sud-ouest à partir de Bangor. Elle est très fréquentée, et pourvu qu'on n'ait pas l'air trop barjot, on s'en sort en général assez bien. Quant aux flics, ils vous fichent la paix, la plupart du temps. Mon premier chauffeur fut un agent d'assurance d'humeur morose qui me conduisit jusqu'à Newport. Je poirotais au carrefour de la 68 et de la 2 pendant environ 20 minutes, avant d'être recueilli par un vieux monsieur qui se rendait à Boydenham. Il n'arrêtait pas de s'empoigner l'entrejambe tout en conduisant. On aurait dit qu'il essayait d'attraper quelque chose qui s'agitait là-dessous. « Ma femme disait toujours que je finirais dans le fossé avec un couteau planté dans le dos si je continuais à prendre des autostoppeurs », me raconta-t-il. « Mais quand je vois un jeune gars comme vous planté au bord de la route, ça me rappelle ma jeunesse. Que voulez-vous ? J'ai levé le pouce plus souvent qu'à mon tour, je dois vous dire. Sans compter qu'à pied, j'en ai fait des kilomètres. Eh bien, en fin de compte, elle est morte depuis 4 ans et moi je roule toujours dans la même vieille Dodge. Elle me manque terriblement. » Il empoigna son entrejambe. « Et où allez-vous ainsi, jeune homme ?» Je lui répondis que je me rendais à Lewiston et lui expliquai pourquoi. « C'est terrible, » dit-il. « Votre maman, je suis désolé, vraiment désolé pour vous. » Il avait exprimé sa sympathie avec tant de force et de spontanéité que je sentis un début de picotement au coin de mes paupières. Je clignais des yeux et tentais de ravaler mes larmes. Je n'avais aucune envie, absolument aucune, d'éclater en sanglots dans la vieille bagnole de ce vieil homme, vieille bagnole qui tremblait de partout et tanguait tant qu'elle pouvait et sentait fortement le pipi. Mrs. McCurdy, la voisine qui m'a averti, a dit que ce n'était pas très grave. Ma mère est encore jeune, elle n'a que 48 ans. Tout de même, une attaque! Il était sincèrement attristé. Il agrippa une fois de plus son pantalon à hauteur de la braguette, tirant dessus avec sa main griffue et démesurée de vieillard. « C'est toujours sérieux, une attaque » reprit-il avec le même accent traînant que celui de Mrs. McCurdy. « Fiston, je te conduirais bien moi-même jusqu'à l'hôpital, jusqu'à l'entrée même, si j'avais pas promis à mon frère de l'amener à la maison de retraite de Gates. C'est là qu'il a mis sa femme. Elle a cette maladie où on oublie tout. Impossible de me souvenir de son nom à celle-là. Pour tout l'or du monde, je m'en souviendrai pas. Anderson, Alvarez, un truc comme ça, Alzheimer. Tout juste. J'ai dû l'attraper, moi aussi. Nom d'un chien. Je suis bien tenté de t'amener, fiston. Ce n'est pas la peine, je vous assure. Je trouverai bien quelqu'un qui me prendra à Gates. Pas de problème. N'empêche, ta mère, une attaque à 48 ans. Nouvelle empoignade d'entrejambe. Foutu bandage hernière, reprit-il d'une voix criarde. Puis il se mit à s'esclaffer d'un rire où il y avait autant de désespoir que d'amusement. Foutu artère pétée. Si tu t'accroches trop longtemps, fiston, c'est tout ton bazar qui commence à se déglinguer. Et à la fin, le bon Dieu doit te botter les fesses, je te le dis. Mais t'es un bon gars. Pour tout laisser en plan comme ça et aller la voir. C'est une maman en or, dis-je, sentant une fois de plus le picotement des larmes qui me montaient aux yeux. Je n'avais pas tellement le cafard à la fac. Un peu pendant la première semaine, puis ça passait. Il n'y avait qu'elle et moi, nous n'avions aucun parent proche. Je ne pouvais m'imaginer la vie sans elle. C'était pas trop grave, à en croire Mrs. McCurdy. Une attaque, mais pas trop grave. Cette fichue vieille avait intérêt à avoir dit la vérité, vraiment intérêt. Nous roulâmes sans rien dire pendant un certain temps. Pas à la vitesse que j'avais espérée, loin de là. Le vieux conducteur maintenait sans faiblir l'aiguille sur 70 km à l'heure et il lui arrivait de faire un tour de l'autre côté de la ligne blanche, histoire de vérifier l'état de la chaussée pour le retour, sans doute. Le trajet était long, mais au fond, c'était aussi bien comme ça. La Nationale 68 déroulait son tapis noir devant nous, zigzagant au milieu d'hectares de forêt et coupant en deux des petits patelins qui apparaissaient et disparaissaient le temps d'un lent clin d'œil, chacun avec son bar et sa station-service. New Sharon, Ophelia, West Ophelia, Ghanistan, jadis Afghanistan, incroyable mais vrai, Mechanic Falls, Castle View, Castle Rock. L'état du ciel limpide s'atténua peu à peu. La lumière du jour baissa. Le vieil homme brancha ses veilleuses, puis au bout d'un moment, ses phares. Il ne parut pas se rendre compte qu'il n'était pas en code, même lorsque les véhicules venant en sens inverse lui adressaient des appels énervés. « Ma belle-sœur ne se souvient même pas de son nom, » dit-il. « Elle ne sait plus rien, ni oui, ni non, ni peut-être. C'est ce que ça te fait, la maladie d'Anderson, fiston. Elle a un regard comme si elle disait « Laissez-moi ficher le camp d'ici !» Ou comme elle dirait peut-être, si elle pouvait seulement penser les mots. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Ayant eu la mauvaise idée de prendre une profonde inspiration, je me demandais si l'odeur de pisse que je sentais provenait du vieux monsieur ou d'un chien qui l'aurait transporté de temps en temps. Allait-il se fâcher si je baissais d'un poil la vitre ? Finalement, je m'y risquais. Il ne parut pas le remarquer, pas plus qu'il ne remarquait les voitures arrivant dans l'autre sens qui lui faisaient des appels de phare. Vers 7 heures, nous attaquâmes une colline à West Gates, et mon chauffeur s'écria « Hé ! Regarde la lune, fiston ! Elle est pas chouette ?» Et il est vrai qu'elle était chouette. Énorme boule orange se hissant péniblement au-dessus de l'horizon. Je lui trouvais cependant quelque chose de terrible. On l'aurait dit grosse de je ne sais quel monstre et contaminée. À la voir s'élever ainsi, il me vint une idée odieuse. Et si jamais maman ne me reconnaissait pas à l'hôpital ? Et si jamais elle avait complètement perdu la mémoire ? Si jamais elle n'arrivait plus à se rappeler quoi que ce soit, ni oui, ni non, ni peut-être ? Et si les médecins me disaient que quelqu'un allait devoir s'occuper d'elle jusqu'à la fin de sa vie ? Il faudrait que ce soit moi, ce quelqu'un, évidemment, puisqu'il n'y avait personne d'autre. Au revoir les études. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous en pensez ? Fais un vœu, mon gars ! S'écria le vieil homme. Dans son excitation, sa voix devint plus aiguë et désagréable. On aurait dit qu'on vous jetait des éclats de verre dans les oreilles. Il tira sur sa braguette de manière terrifiante. Je crus entendre le bruit de quelque chose qui se rompait. Je ne voyais pas comment on pouvait tirer ainsi sur son entrejambe sans s'arracher les couilles, bandage hernière ou pas. « Les vœux qu'on fait à la lune des moissons se réalisent toujours, c'est ce que disait mon père !» Je souhaitais donc que ma mère me reconnaisse quand elle me verrait entrer dans sa chambre, que ses yeux s'illuminent sur le champ et qu'elle prononce mon nom. J'ai mis ce vœu, et regrettai aussitôt de l'avoir fait, convaincu que d'un vœu adressé à cette lune d'un oranger fiévreux ne pouvait rien sortir de bon. « Ah, fiston ! Si seulement ma femme était là, je lui demanderais pardon pour toutes les méchancetés et toutes les bêtises que je lui ai dites. » 20 minutes plus tard, alors que les quelques traînées de lumière s'attardaient encore dans le ciel, et que la lune était toujours basse et obèse, nous arrivâmes à Gates Falls. Un feu jaune clignotant surplombe le carrefour de la route 68 et de Pleasant Street. Juste avant de l'atteindre, le vieil homme obliqua vers le trottoir. La roue avant monta dessus et retomba dans le caniveau. La secousse me fit claquer des dents. Il me regarda avec une sorte d'excitation démente, presque du défi. Tout en lui était dément, même si je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Tout en lui donnait cette impression de verre brisé, et tout ce qui sortait de sa bouche paraissait ponctué d'un point d'exclamation. « Je vais t'amener là-bas, oui, monsieur. Tant pis pour mon frère qu'il aille se faire voir. Ton souhait va être exaucé. » Certes, il me tardait d'être auprès de ma mère, mais je ne me sentais pas de faire 30 bornes de plus dans cette odeur de pisse avec les incessants appels de phare des voitures que nous croisions. Et l'image de ce vieux bonhomme, dérivant et zigzagant au milieu de la circulation des 4 voies de Lisbon Street, n'était pas pour me rassurer. Mais cela tenait avant tout à lui, cependant. Je ne me voyais pas supporter 30 kilomètres de plus de tirage de braguettes et de criaillements comme du verre qu'on pile. « Non, non, répondis-je, ça ira comme ça. Allez vous occuper de votre frère. » J'ouvris la portière, et ce que je craignais se produisit. Sa main, déformée de vieillard, vint s'agripper à mon bras, la main avec laquelle il ne cessait de se tripoter l'entrejambe.
« Mais si, je vais le réaliser, ton vœu »
insista-t-il d'une voix à la fois rauque et confidentielle. Ses doigts s'enfonçaient profondément dans ma chair, juste en dessous du coude.
« Je vais te déposer juste devant l'entrée, ouais, ouais, et peu importe si je te vois pour la première fois de ma vie et si nous ne nous connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Peu importe, oui, non ou peut-être, je t'y conduis tout de suite. »
« ça ira, » répétai-je, me retrouvant tout d'un coup en train de lutter contre une envie furieuse de bondir hors de la vieille Dodge, quitte à lui laisser un lambeau de chemise dans la main, s'il n'y avait pas d'autre solution. On aurait dit qu'il se noyait. Je m'imaginais que si je bougeais, il allait me serrer encore plus fort, allait peut-être même me prendre par la nuque. Mais il n'en fit rien. Ses doigts se relâchèrent, puis libérèrent complètement mon bras lorsque je sortis une première jambe. Et je me demandais, comme on le fait toujours, lorsque le moment de panique est passé, ce qui avait bien pu m'effrayer autant. Il ne s'agissait de rien de plus que d'une forme vivante à base de carbone, vieille et inscrite dans un vieil écosystème Dodge qui puait la pisse, d'un type à la mine désappointée devant le refus que je posais à son offre. Rien qu'un vieil homme qui ne supportait pas son bandage hernière. De quoi donc, bonté divine, avais-je eu peur ? « Je vous remercie pour la balade, et encore plus pour cette proposition, lui dis-je. Mais je vais partir par là, je montrai Pleasant Street, et je suis sûr que quelqu'un me prendra en moins de 5 minutes. » Il resta quelques secondes sans rien dire, puis soupira et acquiesça.
« Exact, c'est la meilleure solution. Faut sortir de la ville. Il n'y a personne qui te prend en ville. Personne n'a envie de ralentir pour se faire klaxonner. »
Sur ce point, il avait raison. Le stop en ville, même dans un petit patelin comme Gates Falls, c'est perdre son temps. Je me dis qu'il avait dû pas mal voyager le pouce levé dans le temps.
« T'es bien sûr, fiston. Tu sais ce qu'on dit. Qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. »
J'eus un instant d'hésitation. Son proverbe n'était pas dénué de sens, à vrai dire. Pleasant Street devenait une route, Ridge Road, à environ 1,5 km du carrefour. Quant à Ridge Road, elle traversait plus de 20 km de forêt avant de rejoindre la route 196, dans la banlieue de Lewiston. La nuit était presque complètement tombée, et il est toujours plus difficile de se faire ramasser à ce moment-là. Quand vous apparaissez dans les phares, sur une route de campagne, vous avez tout de l'évadé de la maison de correction, même si vous êtes bien peigné et si vous avez la chemise qui ne sort pas du pantalon. Mais je n'avais vraiment plus envie de partager la compagnie de ce vieil homme. Même en cet instant, alors que j'étais en sécurité, hors de sa voiture, je lui trouvais encore quelque chose d'inquiétant. Sa façon de parler, peut-être, qui paraissait ponctuée de points d'exclamation. Sans compter que j'avais toujours de la chance en matière d'autostop. « Tout à fait sûr, » lui répondis-je. « Et merci encore, vraiment. Quand tu voudras, fiston, quand tu voudras. Ma femme... » Il s'interrompit, et je vis une larme déborder de son œil. Je renouvelai mes remerciements et fis claquer la portière avant qu'il ait pu ajouter quelque chose. Je traversai la rue d'un pas rapide, mon ombre apparaissant et disparaissant au rythme du feu jaune clignotant. Une fois de l'autre côté, je me retournai. La Dodge était toujours garée devant Frank Fountain and Fruits. À la lumière conjuguée du feu jaune et du lampadaire qui se trouvait à une dizaine de mètres de la voiture, je voyais sa silhouette lourdement appuyée sur le volant. L'idée me vint à l'esprit qu'il était peut-être mort, qu'en refusant son aide, je l'avais tué. Puis une voiture arriva au carrefour et le conducteur adressa un appel de phare à la Dodge. Cette fois-ci, le vieil homme passa en code, et je sus ainsi qu'il était encore en vie. Il redémarra quelques instants plus tard et tourna lentement à l'angle de la rue. Je la suivis des yeux jusqu'à ce que ses feux de position aient disparu, puis levai la tête vers la lune. Elle commençait à perdre son aspect ballonné et sa couleur orangée, mais elle gardait néanmoins quelque chose de sinistre. Il me vint alors à l'esprit que je n'avais jamais entendu dire qu'on pouvait adresser un vœu à la lune. À l'étoile du berger, d'accord, mais pas à la lune. De nouveau, je souhaitais pouvoir reprendre le vœu, et tandis que l'obscurité s'épaississait et que je restais planté à la croisée des chemins, je n'eus aucun mal à penser à l'histoire du paysan et de ses trois vœux. Je parcourus toute la longueur de Pleasant Street, agitant mon pouce en direction des voitures qui passaient sans même ralentir. Puis les magasins et les maisons se firent rares, disparurent complètement, et finalement, le trottoir s'arrêta. Les arbres se refermèrent sur la chaussée, reprenant en silence possession de la terre. À chaque fois qu'un faisceau lumineux venait trouer l'obscurité, chassant mon ombre loin devant moi, je me tournais, brandissais mon pouce et arborais le sourire le plus rassurant possible. Et à chaque fois, le véhicule passait sans même ralentir dans un tourbillon d'air. Une fois, une voix me cria « Trouve-toi donc du boulot, enfoiré !» Puis il y eut un éclat de rire. Je n'ai pas peur du noir. Je n'en avais pas peur à l'époque, plus exactement. Mais je commençais à craindre d'avoir commis une erreur. J'aurais peut-être dû accepter l'offre du vieil homme qui m'avait proposé de me conduire jusqu'à la porte de l'hôpital. J'aurais pu, à la rigueur, me fabriquer, avant de partir, un panneau « Mère malade » à Lewiston. Mais je ne suis pas sûr que cela aurait changé grand-chose. N'importe quel cinglé aurait pu en faire autant. Je continuais d'avancer. Mes tennis faisaient crisser les gravillons du bas-côté en terre meuble et je tendais l'oreille au bruit de la nuit. Un chien aboya très loin, une chouette ulula beaucoup plus près. Le vent se leva avec des soupirs. Le ciel était brillant à cause de la pleine lune, mais les arbres très hauts ici m'empêchaient de voir l'astre lui-même. Une fois les limites de Gates franchies, les voitures s'étaient faites de plus en plus rares. La décision de ne pas continuer avec le vieux monsieur me paraissait de plus en plus stupide à chaque minute qui passait. Je me mis à imaginer ma mère couchée sur son lit d'hôpital, la bouche déformée et paralysée dans une grimace, perdant peu à peu prise sur la vie, mais essayant de s'accrocher à ce qu'il en restait d'écorce, une écorce de plus en plus glissante. Tout cela pour me voir, ignorant que je n'allais pas arriver à temps, simplement parce que je n'avais pas aimé la voix aigre d'un vieillard et l'odeur de pisse de sa voiture. Je retrouvai le clair de lune en arrivant au sommet d'une colline. À ma droite, les arbres étaient maintenant remplacés par un petit cimetière de campagne. Les pierres tombales brillaient sous la lumière pâle. Quelque chose de petit et de noir était blotti contre l'une d'elles et m'observait. La curiosité me fit avancer d'un pas. La chose noire se déplaça et devint une marmotte. L'animal m'adressa un unique regard de reproche de son œil rouge et disparut dans les hautes herbes.
Je me rendis compte brusquement que j'étais très fatigué, au bord de l'épuisement en réalité. Je fonctionnais à l'adrénaline depuis le coup de téléphone de Mrs. McCurdy, soit depuis 5 heures. Mais mes réserves devaient être à sec. C'était la mauvaise nouvelle. La bonne était que du coup, je ne ressentais plus ce besoin frénétique, urgent et inutile de foncer, au moins pour le moment. J'avais fait mon choix. Préférer prendre Ridge Road que la route 68 et il ne servait à rien de me faire des reproches là-dessus. Vivons joyeux, ce qui est pris, comme disait quelquefois ma mère. Elle connaissait plein de trucs dans ce genre, des petits aphorismes zen dont le sens restait parfois un peu sibyllin. Absurde ou non, celui-ci me réconfortait. Si elle était morte lorsque j'arrivais à l'hôpital, il faudrait faire avec. Mais je n'y croyais pas. Le médecin avait dit que ce n'était pas très grave d'après Mrs. McCurdy. Et Mrs. McCurdy m'avait aussi rappelé que Maman était relativement jeune. Un peu trop forte, d'accord, et grosse fumeuse par-dessus le marché, mais encore jeune. Toujours est-il que je me retrouvais au milieu de nulle part. Soudain pris d'épuisement, comme si j'avais les pieds dans le ciment. Un mur de pierre bas fermait le cimetière le long de la route. En son milieu, il comportait une ouverture où l'on voyait la trace de 2 ornières. Je m'assis sur le mur, les pieds dans l'une de ces ornières. De là, je dominais Ridge Road sur une bonne distance dans les 2 directions. Il me suffirait, lorsque je verrais des phares pointés vers l'ouest, c'est-à-dire vers les Whiston, de retourner au bord de la route et de lever le pouce. En attendant, je pouvais rester assis ici, le sac à dos sur les genoux, espérant que le repos allait rendre leur vigueur à mes jambes. Une brume légère et lumineuse commença à monter de l'herbe. Les arbres qui entouraient le cimetière sur les 3 autres côtés se mirent à bruire dans la brise naissante. D'un peu plus loin me parvenait le murmure de l'eau courante et le plic-ploc occasionnel d'une grenouille. L'endroit était beau et curieusement apaisant, comme une illustration dans un recueil de poèmes romantiques. Je regardais dans les 2 directions. Rien ne venait sur la route, pas la moindre lueur à l'horizon. Je posais mon sac à dos dans l'ornière à mes pieds, me levais et m'avançais dans le cimetière. Une bouffée d'air redressa la mèche qui me retombait sur le front. La brume s'enroulait paresseusement autour de mes chevilles. Les pierres tombales du fond du cimetière, les plus anciennes, étaient parfois inclinées ou renversées. Les plus proches étaient beaucoup plus récentes. Je me penchais sur l'une d'elles, main sur les genoux, pour déchiffrer son inscription. Elle était entourée de fleurs qui commençaient à peine à se faner. À la lueur du clair de lune, je n'eus pas de mal à lire le nom. George Stubb. En dessous, figuraient les dates de son bref séjour dans notre monde. 19 janvier 1977, 12 octobre 1998. Voilà qui expliquait l'état de relative fraîcheur des fleurs. Nous étions le 14 octobre, et le jeune homme était mort 2 ans auparavant. Ses parents et ses amis étaient venus commémorer cet anniversaire. Sous le nom et les dates, il y avait autre chose, un texte court. Je me penchai un peu plus pour lire, et battis en retraite d'un pas vacillant, terrifié et soudain trop conscient que j'étais tout seul en pleine nuit dans un cimetière. « Vivons joyeux, ce qui est pris est pris. » Lisait-on. Ma mère était morte, ou se mourait peut-être en cet instant même, et ceci était le message qui m'en avertissait, envoyé par quelque chose qui était doué d'un sens de l'humour particulièrement déplaisant. Je commençais à reculer lentement en direction de la route, l'oreille tendue, le vent dans les arbres. Le murmure du ruisseau, le plongeon des grenouilles, redoutant à présent d'entendre d'autres bruits, un frottement sur la terre, le craquement de racines qui cèdent, quelque chose de pas tout à fait mort qui tendrait la main vers mes chevilles. Mes pieds s'en mêlèrent, et je tombai de tout mon long, me cognant le coude sur une pierre tombale, ma nuque manquant de peu celle de la tombe voisine. J'atterris sur un matelas d'herbe avec un bruit sourd, et me retrouvai contemplant la lune qui venait juste de passer au-dessus des arbres. Elle n'était plus orangée, mais blanche. Et brillait comme de l'os poli. Au lieu d'achever de me paniquer, cette chute m'éclaircit les idées. Je ne savais pas ce que j'avais vu, mais il ne pouvait s'agir de ce que je croyais avoir vu. C'est le genre de truc qui marche dans les films de John Carpenter ou de Wes Craven, pas dans la réalité. « Bon, oui, d'accord, » murmura une voix dans ma tête. « Et tu n'as qu'à ficher le camp d'ici pour t'en persuader pour le reste de tes jours. »« Et merde !» dis-je en me relevant. Le fond de mon pantalon était mouillé et je tirais sur le tissu pour le décoller de mon corps. Il ne me fut pas facile de m'approcher à nouveau du lieu où
George Stobb reposait pour l'éternité. Mais pas aussi difficile que je l'aurais cru, cependant. Le vent multipliait ses soupirs dans les branches, annonçant un changement de temps. Des ombres dansaient de manière anarchique autour de moi. Les branches frottaient les unes contre les autres, et un craquement me parvint du bois. Je me penchai de nouveau sur la pierre tombale. George Stobb, 17 janvier 1977, 12 octobre 1998, vivant, joyeux, la mort trop tôt l'a pris. Je restai planté là, à moitié plié, les mains juste au-dessus des genoux, et je ne me rendis compte que mon cœur battait à tout rompre que lorsqu'il commença à ralentir. Une très désagréable coïncidence, voilà tout. Et qu'y avait-il d'étonnant à ce que j'ai mal déchiffré l'inscription en caractères plus petits ? Même sans être fatigué et stressé, j'aurais pu me tromper. Tout le monde sait que le clair de lune a de ses effets. Affaire classée. Sauf que je savais très bien ce que j'avais lu. Vivons joyeux, ce qui est pris est pris. Man était morte. Et merde, répétais-je. Puis je me retournais. Ce faisant, je remarquais que la brume qui déployait ses volutes sur l'herbe et autour de mes chevilles était devenue plus brillante. J'entendis le grondement lointain et de plus en plus net d'un moteur. Un véhicule arrivait. Je retournai précipitamment jusqu'à l'ouverture dans le mur, récupérant mon sac au passage. Les phares étaient à mi-pente dans la montée. Je levai le pouce à l'instant précis où leur faisceau m'atteignit et m'aveugla momentanément. Avant même qu'il commence à ralentir, je savais que le type allait s'arrêter. C'est curieux, comme on a parfois de ces intuitions. Mais quiconque a beaucoup circulé en autostop pourrait vous dire que c'est assez fréquent. La voiture passa devant moi, les feux stop allumés, et alla se garer sur le bas-côté, à hauteur de la fin du mur qui entourait le cimetière. Je courus le sac à dos que je n'avais pas enfilé cognant contre ma cuisse. C'était une Mustang, une authentique Mustang de la fin des années 60 ou du début des années 70. Le moteur ronronnait bruyamment, un son grave et menaçant issu d'un échappement qui risquait de ne pas survivre au prochain contrôle technique du véhicule, ce qui n'était pas mon problème. J'ouvris la portière et me coulai à l'intérieur. Tandis que je posais le sac entre mes pieds, je sentis une odeur particulière, une odeur que je connaissais plus ou moins et qui était un poil désagréable. « Merci, dis-je, merci beaucoup. » Le type au volant portait des jeans délavés et un t-shirt noir aux manches coupées au ras de l'épaule. Il était bronzé, fortement musclé, et un tatouage bleu en forme de barbelé entourait son biceps droit. Il portait, tourné à l'envers, une casquette publicitaire verte John Deere. Il avait aussi un pin's agrafé près du col, mais, d'où j'étais, je ne pouvais pas lire l'inscription. « Pas de problème, » répondit-il. « Tu vas en ville ?»« Oui. » Dans cette partie du monde, « aller en ville » signifie forcément « aller à Lewiston », car elle est la seule agglomération à mériter ce nom au nord de Portland. Tandis que je refermais la portière, je remarquais un de ces désodorisants en forme de sapin qui pendait du rétroviseur. C'était l'odeur que j'avais sentie. On peut dire d'ailleurs que, question odeur, ce n'était pas ma nuit. Tout d'abord la pisse et à présent le pain artificiel. N'empêche, c'était une voiture. Et j'aurais dû me sentir rassuré. Et tandis que le type revenait sur Ridge Road et accélérait, dans le rugissement de sa Mustang d'époque, j'essayais de me convaincre que j'étais soulagé. « Et qu'est-ce que tu vas faire en ville ?» demanda le chauffeur. Je lui donnais à peu près mon âge et imaginais qu'il venait d'un petit patelin quelconque et fréquentait une école technique comme celle d'Auburn, ou bien qu'il travaillait dans l'une des rares usines textiles encore en activité dans le secteur. Il avait probablement remis la Mustang à neuf pendant ses loisirs, car tel était le passe-temps favori des jeunes dans les patelins du coin. Boire de la bière, fumer un joint ou deux, et réparer leur bagnole, ou leur bécane. Mon frère se marie et c'est moi qui suis son garçon d'honneur. C'est sans la moindre préméditation que j'avais répondu par ce mensonge. Pour une raison qui m'échappait, je n'avais aucune envie de lui parler de ce qui était arrivé à ma mère. Il y avait quelque chose qui clochait dans le tableau. J'ignorais quoi. Et même pour quelle raison je ressentais une telle impression. Mais cette idée s'imposait à moi. J'en étais sûr et certain, quelque chose clochait. On met la cérémonie au point demain, et le soir, on enterrera sa vie de garçon. Ah ouais? C'est vrai? Il se tourna pour me regarder. Il avait les yeux très écartés,
un beau visage, des lèvres pleines qui esquissaient un sourire, mais une expression incrédule. « Ouais ?» J'avais peur. De nouveau, j'avais peur, tout simplement. Décidément, quelque chose clochait, et avait même commencé à clocher lorsque le vieux schnock à la Dodge m'avait invité à émettre un vœu à la lune malsaine au lieu d'une étoile. Ou peut-être, au moment où j'avais décroché le téléphone et entendu Mrs. McCurdy m'annoncer qu'elle avait de mauvaises nouvelles pour moi, mais que ce n'était pas aussi grave qu'on pouvait croire. « Eh bien, c'est super !» dit le jeune homme à la casquette à l'envers. « Un frère qui se marie, vieux, c'est super. Comment tu t'appelles ?» Je n'avais pas seulement peur. J'étais terrifié. Tout clochait, absolument tout, et je ne comprenais ni pourquoi ni comment cela avait pu se dégrader aussi vite. Une chose était certaine, cependant. Je ne voulais surtout pas dire mon nom au chauffeur de la Mustang, pas plus que je n'avais voulu qu'il sache pour quelle raison je me rendais à Lewiston. Comme si j'allais y arriver. Je fus soudain convaincu que jamais je ne reverrais Lewiston. La même intuition que lorsque j'avais su que la voiture allait s'arrêter. Et il y avait l'odeur, cette odeur qui m'avait alerté, pas celle du désodorisant, mais une autre, dissimulée en dessous. « Hector, » répondis-je, donnant le nom de mon compagnon de piaule. « Hector Passmore. » Les mots étaient sortis sans peine, calmement, de ma bouche desséchée. Ouf! Quelque chose me disait qu'il ne fallait absolument pas que le chauffeur de la Mustang se doute que j'avais cette impression que tout clochait, que c'était ma seule chance. Il se tourna légèrement vers moi et je pus lire l'inscription sur le pins. « Je suis monté dans le bolide à la foire de Laconia. » Je connaissais l'endroit pour y avoir été une fois, mais cela faisait longtemps. Je vis également une grosse ligne noire qui lui entourait le cou, comme le tatouage du fil de fer barbelé lui entourait le biceps. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'un tatouage. La ligne noire était ponctuée d'une douzaine de marques verticales, des points de suture posés par celui qui avait recousu cette tête sur ses épaules. « Ravi de faire ta connaissance, Hector. Moi, c'est George Staub. » Ma main parut flotter vers la sienne comme dans un rêve. J'aurais bien aimé que cela soit un rêve, mais je ne pouvais pas me payer d'une telle illusion. Chaque détail avait cette précision aiguë qui est la marque de la réalité. L'odeur dominante était bien celle de la résine, l'odeur sous-jacente, celle d'un produit chimique. Probablement du formol. J'étais le passager d'une voiture conduite par un mort.